Je vous invite de prendre vos Bibles. Et nous allons commencer avec un verset qui est, je crois, pas mal connu par la plupart qui sont là, dans le dernier chapitre de Matthieu. Donc Matthieu, chapitre 28. Matthieu, vous savez, la Bible est divisée en deux parties, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et le premier des livres de l'Ancien Testament est Matthieu. Et au tout dernier chapitre, le chapitre 28, nous lisons au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des quoi ?» Nous avons chanté tout à l'heure « Je veux être ton disciple ». Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors regardez dans ce verset que Jésus donne à ses disciples un ordre d'envoi en mission. Faites de toutes les nations des disciples. Alors ce dont nous allons parler ce matin est une activité centrale à la formation des disciples. Ça concerne donc tous les chrétiens. Et l'activité dont je parle, qui est centrale à la formation des disciples, se trouve au verset 20, regardez-le. Et, quoi, quelle est l'activité ici? Enseignez-leur. Donc la formation des disciples, par l'enseignement, cette activité d'enseignement, n'est pas réservée à des spécialistes. Tous les chrétiens sont concernés. Tous les chrétiens sont appelés à former des disciples en s'engageant dans l'enseignement. Et c'est pour cela que l'Église, entre autres, hein, l'Église est beaucoup de choses. Mais parmi toutes ces choses, l'Église est un centre de formation. C'est un centre d'enseignement. Comme nous avons fait tout à l'heure avec l'histoire en Genèse. Et c'est un des rôles, en fait, centraux pour des pasteurs ou des anciens de l'Église. Alors, sans chercher, je vous montre quelques versets pour souligner ce fait. Il dit, il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, est capable, quoi ? D'enseigner. Vraiment, presque la seule chose ici qui n'a pas à faire avec son caractère, c'est sa capacité d'enseigner. Parce qu'on peut être quelqu'un de très bon, très saint, très spirituel, sans avoir la capacité d'enseigner. Mais ça, c'est une capacité nécessaire pour le responsable de l'Église. Encore en 2 Timothée, chapitre 2. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des conflits, il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Alors, à vous de décider quel est le plus difficile entre ces deux choses. En 1 Timothée, chapitre 4, il dit donc à Timothée le pasteur, déclare ces choses et enseigne-les. En 2 Timothée 2, verset 2, il regarde un peu plus loin dans le temps, il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confié à des hommes fidèles, qui soient, et on le retrouve encore, capables d'enseigner. » Il faut qu'ils soient fidèles, mais aussi qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mais ce n'est pas réservé, alors je vous lis ce verset, pardon, en Colossiens 1, 28, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. » Ça, c'est l'activité fondamentale, on peut dire, d'un pasteur. Instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous voyez, afin de, le moyen de pouvoir former ses disciples vient par l'enseignement. Les pasteurs sont donc des enseignants. Mais ce n'est pas seulement au pasteur d'enseigner. Si vous, je vous dis Tite, chapitre 2, verset 3, vous pensez à qui? Peut-être que vous connaissez ce verset. Il dit de même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson. Donc là encore des traits de caractère. Mais elles doivent quoi? Enseigner ce qui est bien. Elles doivent enseigner ce qui est bien. Donc le fait qu'il dit aux femmes âgées, le fait qu'il le dit à ces femmes ne veut pas dire que c'est exclusivement le rôle des femmes âgées. Il faut être âgé avant de commencer à enseigner, non. Toutes les femmes doivent s'engager dans l'enseignement de ce qui est bien. Heureusement, parce que sinon vous diriez tous, non, c'est pas encore l'âge. Donc vous êtes tous jeunes, les femmes, mais vous pouvez toutes enseigner. Alors Colossiens 3, 16 élargit encore plus grand. Aussi grand que l'Église, en fait. Quand il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, et puis quoi? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc tout le monde est impliqué dans ce besoin d'instruire. Nous devons donc à la fois dans l'Église pouvoir recevoir l'instruction de tous nos frères et sœurs et savoir comment aussi partager l'instruction. Mais puisque nous pensons en juin surtout des familles, nous avons pris comme thème pour le mois de juin construire une famille selon Dieu dans une société sans Dieu. Nous allons parler de l'instruction, l'enseignement, la formation chrétienne au sein de la famille chrétienne. Et si vous ne vivez pas au sein de la famille chrétienne, d'une famille chrétienne, ne dites pas que cela ne vous concerne pas. Je crois qu'avec un peu de réflexion, chacune peut prendre ce qui est dit et l'appliquer à votre situation personnelle. Mais voici la question que je veux poser. Je veux qu'on réfléchisse sur cette question. Est-ce que c'est seulement dans le cadre de l'Église que nous devons former et créer des disciples? C'est-à-dire, la même question d'une autre façon, est-ce que dans le Nouveau Testament, toute l'activité spirituelle, la création, la formation de disciples dont nous parlons, est-ce que toute cette activité spirituelle se passe d'une façon ou informelle dans le cadre de l'Église? Prenons par exemple une femme âgée qui enseigne une autre femme moins âgée, même si c'est d'une façon informelle. Elle le fait quand même dans le cadre de l'Église. Elles se connaissent grâce à l'Église. Elles sont toutes les deux membres de la même Église. Un pasteur qui enseigne, bien sûr, le fait dans le cadre de l'Église locale. Quand il dit en Colossiens 3, 16, que vous voyez ici, « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres », c'est bien sûr dans le cadre de l'Église locale. Ça ne veut pas dire que ça se fait que le dimanche. Mais ça peut se faire pendant la semaine, dans les maisons, autour d'un café. Mais quand même, le lien demeure l'Église. Nous sommes unis, nous nous connaissons à cause de notre unité en Jésus-Christ et dans cette Église locale. Donc, on pourrait dire que la création, la formation des disciples est une tâche confiée uniquement à l'Église et aux membres de l'Église dans leur fonction en tant que membre. C'est-à-dire, je le fais en tant que membre de l'Église. Et c'est ça qu'on voit la surprise. Quoique chaque chrétien est un membre du corps de Christ, ce n'est pas seulement en tant que membre du corps de Christ que nous sommes appelés à faire et à former des disciples. En fait, la première responsabilité, je parle chronologiquement ici, dans la vie d'une personne, la première responsabilité de former un disciple n'est pas donnée à l'Église. Ce n'est pas donné à l'Église, ni aux membres de l'Église. C'est bien, par exemple, d'avoir des programmes pour nos enfants. Nous avons eu tout à l'heure une étude pour les enfants, et vous les avez entendus chanter, et maintenant les petits sont encore là, avec des monitrices. Mais il ne faut pas croire que c'est la responsabilité de l'Église, représentée donc par ces monitrices ou moniteurs, de faire de nos enfants des disciples de Jésus-Christ. Je peux le dire d'une autre façon. Je suis chrétien, je suis membre de cette église, je suis même un des anciens, un des pasteurs. Mais si j'ai des petits êtres humains qui habitent à la même adresse que moi, et avec qui je suis lié par des liens de parenté, je suis appelé à faire des disciples d'eux, pas dans mon rôle de pasteur, même pas dans mon rôle de membre de l'église, mais dans mon rôle de quoi ? Dans mon rôle de père. Et c'est ce que nous voyons en Éphésiens chapitre 6 et verset 4, qui sert de notre texte ce matin. Et vous, père, on peut élargir donc aux mères aussi, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On peut le dire ainsi, faites de vos enfants des disciples de Jésus-Christ. Alors, au début du 20e siècle, à la fin du 19e siècle, il y avait deux frères français, Monod, les frères Monod, qui étaient tous les deux pasteurs. Et c'est le pasteur Horace Monod qui parlait au père. Et il a dit ceci. Il a dit, si vous vous débarrassez entièrement sur nous, donc il parle en tant que pasteur d'une église, il parle aux familles. Si vous vous débarrassez entièrement sur nous, de tout ce qui concerne l'éducation religieuse de vos enfants, vous enlevez à notre parole presque toute efficace et toute autorité. Si vous nous forcez à leur recommander des devoirs religieux qui ne vous voient pas remplir, vous rendez notre tâche presque impossible. Comment voulez-vous qu'ils soient plus dociles envers le pasteur que fidèles à l'exemple du Père? Comment voulez-vous que, pour les rendre pieux, il nous faille lutter d'influence avec vous et leur dire, bon, aimez, honorez votre Père, sans pouvoir ajouter, imitez-le. Ah, cette lutte est impraticable et cette responsabilité, nous ne l'acceptons pas. C'est un peu comme un parent qui donne ses enfants à la maîtresse et dit, voilà, tu fais tout. On ne peut pas tout faire sans les parents. Et après, il compare l'influence de l'Église avec celle des parents dans la vie d'un enfant et il dit ceci. Voyez, la priorité nous manque. C'est-à-dire, nous, l'Église. Votre œuvre devance la nôtre. Et vos enfants, quand vous nous les amenez, sont déjà pleins de vos idées, de vos sentiments, de vos habitudes. Après, il dit, le temps nous manque. Nous n'avons guère pour les instruire pendant quelques mois, qu'une heure ou deux par semaine, tandis que pour agir sur eux, les jours et les heures sont à votre disposition avec la liberté de choisir les plus favorables. Et puis, il dit, l'autorité nous manque. Nous avons rien de comparable à cet ascendant que vous donne la nature et que vos enfants subissent comme par instinct. Ne les voyez-vous pas vous épier sans cesse pour parler, agir et croire comme vous? S'il y a un moment, opposition, lutte dans leur âme entre votre influence et la nôtre, nos leçons et vos exemples, est-il naturel, est-il même possible que nos enseignements aient le dessus? Oh, considérez donc tous les avantages que vous avez sur nous. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Vous avez charge d'âme, vous en rendrez compte. Alors, c'est des mots très forts. Mais je crois qu'il faut reconnaître que la famille a été instituée par Dieu et a un rôle essentiel à jouer dans l'avancement du royaume de Dieu. Et si vous êtes parents, écoutez bien ces mots de Monod. Hein. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Si vous voulez ou non. Vous avez charge de leurs âmes, vous en rendrez compte donc à Dieu. J'ai lu une fois l'histoire d'un jeune pasteur qui était pasteur d'une toute petite église et il était triste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de membres. Il a écrit à un autre pasteur pour partager sa tristesse. Et l'autre pasteur, plus âgé, lui a répondu, « Si tu penses au fait que tu es redevable à Dieu pour chaque membre de ton Église, tu ne te plaindrais pas d'avoir si peu de membres. Ah, c'est une façon de voir les choses. Et je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui aimeraient avoir des enfants, mais à qui Dieu n'a pas donné d'enfants. Et votre souffrance est réelle, et je ne veux pas diminuer votre souffrance. Néanmoins, le constat est vrai, il faut faire le constat. Que si vous n'avez pas d'enfants, vous n'allez pas rendre compte à Dieu pour la façon dont vous avez façonné, modulé la vie de ces personnes qui vivront pendant toute l'éternité. Et nous qui sommes parents, nous avons une responsabilité effrayante. Et ce n'est pas que nous serons jugés sur le résultat. Ne pensez pas que Dieu nous juge sur le résultat, mais selon notre œuvre. 1 Corinthiens 3 dit très, très clairement que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ce n'est pas celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croire. On peut l'appliquer même aux enfants. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon quoi ? Son propre travail, pas selon le résultat. Ce n'est pas que Dieu dit « Ah, ces enfants sont bien, donc bravo les parents ». J'ai entendu un comédien qui disait « Vous savez ce qu'il faut pour avoir de bons parents ? Il faut de bons enfants. Quand vous avez de bons enfants, c'est tout de suite, vous êtes de bons parents. » Mais il peut y avoir parfois un père qui ne fait rien pour faire des disciples de ses enfants. Et ses enfants suivent quand même le Seigneur grâce à l'œuvre de quelqu'un d'autre, la mère ou une monitrice à l'église, etc. La Bible dit que chacun, donc chaque parent, recevra sa propre récompense selon son propre travail, pas selon comment mes enfants sont en tant qu'adultes. Donc il ne faut pas juger un père ou une mère selon ses enfants, mais selon le travail qu'ils font ou qu'elle fait, il ou elle fait, en tant que parent. Donc on se pose la question, donc, quel est le travail qu'il faut faire? Et c'est là, nous revenons donc sur Éphésiens chapitre 6. Et il y a, je vais vous montrer d'abord, il y a un obstacle à éviter. Il parle d'abord négativement, en Éphésiens chapitre 6, verset 4, et il dit, et vous, père, quoi? Qu'est-ce qu'il dit de négatif ici? N'irritez pas vos enfants. Alors, ce même mot irriter traduit en Romains 10, 19 comme provoquer la colère de quelqu'un. Ça, c'est l'idée. Provoquez la colère de vos enfants. Ne provoquez pas la colère de vos enfants. Et il ne parle pas du fait seulement de le faire exprès, mais même du fait de le faire même sans faire exprès. Un autre mot grec, mais la même idée. Ici, vous voyez en Colossiens 3, 21, il dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et je crois qu'un père qui sait observer lui-même et qui sait observer ses enfants verra probablement comment il les provoque à la colère. Parce que ce commandement, en fait, est lié à leur réaction. Donc, comment est-ce qu'ils réagissent? Et ceci, bien sûr, vrai pour toutes les situations. Il dit, par exemple, qu'il faut qu'un serviteur du Seigneur, il ne faut pas qu'il ait des conflits, il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. C'est la même chose, en fait, dans toutes les relations, si vous voulez faire des disciples. Vous ne pouvez pas les provoquer à la colère et faire d'eux, en même temps, des disciples de Jésus-Christ. Alors, des choses qui peuvent le provoquer à la colère, ben, c'est à vous de réfléchir. Mais le fait d'être déraisonnable, le fait d'avoir l'attitude de tout critiquer, parfois il y a des parents qui ne peuvent que critiquer, un manque de cohérence dans ses actions, parfois c'est cela, parfois c'est pas cela, et un manque d'attention aussi. Des choses, un enfant désire l'amour et l'attention de ses parents et les provoquer quand il ne les reçoit pas. Mais cela exige une connaissance de nous-mêmes et une connaissance de nos enfants. On ne peut pas donc être parent à la légère, quoi. Il faut vraiment réfléchir à la façon dont nous sommes parents. Ça exige une mort même à soi-même et pour le bien de l'autre. C'est-à-dire, je me prive de certaines actions. Je façonne mes réactions, mes paroles, ma façon de faire pour le bien de l'autre. En l'occurrence, mes enfants. Ceci exige que j'ajuste ma manière d'être pour le bien d'un autre. Ça existe la mort à soi-même au sein même de la famille. Et c'est là où c'est le plus dur. Hein? Quand on est quelques heures avec d'autres personnes, on peut se priver de réagir de certaines façons. Mais quand c'est tout le temps des gens autour de vous qui peuvent vous provoquer à 1h du matin même, 3h du matin, encore à 3h30 du matin, et puis à 7h du matin. C'est là où notre faiblesse se démontre. Et on pense souvent, en tant que parent, bon, je parle pour moi-même, hein, je pense plus à comment je suis provoqué à la colère par mes enfants qu'aux façons que je provoque mes enfants à la colère. Et donc Paul, il tourne un peu le spot sur les parents et dit, bon, vous dites, mes enfants me provoquent en faisant ceci, en faisant cela. Non, vous, comment provoquez-vous vos enfants? Alors, quelle est donc, deuxièmement, la manière de former? Et ici, un très beau mot, on ne le voit pas très clair en français, mais c'est très beau. Il dit, et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Alors, élever, bon, on peut élever des vaches et des moutons, voilà, c'est pas très beau comme mot en français, mais le mot n'apparaît que deux fois dans la Bible, et les deux sont en Éphésiens. L'autre, et vous pouvez même marquer au-dessus, hein, une autre fois, et c'est en Éphésiens 5, 29. Alors, et trouver le même mot, traduit par un autre mot français, mais en Éphésiens 5, 29, donc pas très loin, hein, presque dans le même contexte, il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il l'a nourri. C'est ça le mot, nourrir. Alors réfléchissez un peu, hein, imaginons, comment nourrissons-nous nos propres corps? Est-ce qu'on prend la baguette et on la lance vers la bouche? Hein? Même après que le repas est préparé, tout est préparé, c'est très bon, on le met sur l'assiette, est-ce qu'on prend l'assiette et on le jette dans le visage en espérant que voilà, un peu va rentrer quand même dans la bouche? Non, on se nourrit avec soin, cuillerée par cuillerée. S'il faut couper, on coupe. Hein? Même les Indiens qui mangent avec la main, j'essaie, c'est encore plus dur qu'avec la fourchette. Hein. Il y a des règles à suivre. Et j'ai appris que dans la culture indienne, les parents vont nourrir l'enfant à la main, comme ça. Et vous pouvez demander comment ça s'est fait, et vous m'entendez après. Mais donc, imaginez l'attention, le soin qui est donné quand on nourrit un enfant, à la main. Avec soin. Et ça, c'est la façon qu'il faut élever nos enfants. Cuirée par cuirée. Bouchée par bouchée. À la main. Ça, c'est l'image qu'il nous donne ici. Et quels donc sont les outils qu'il nous donne? Les outils de cette formation? Il y en a deux. Et c'est quoi la première? C'est la correction. La correction. Hein, le mot corriger n'est pas un mot qui apporte beaucoup de joie. Donc, qui est l'enfant qui aime ce mot? Je ne pense pas qu'il en ait. En fait, Hébreu 11, 12 qui utilise ce mot, il dit, il est vrai que tout châtiment, donc c'est une autre façon de traduire le même mot, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Au début. Et parfois, il y a des parents qui veulent jamais qu'il y ait de la tristesse. Mais la Bible nous appelle à la correction. Et puis le deuxième outil sur lequel nous voulons vraiment réfléchir ce matin, c'est l'instruction verbale. Vous voyez ça? C'est en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et ça parle du fait de placer devant la pensée de quelqu'un. Ça parle d'un phénomène verbal. Avec la bouche, on place des vérités devant la pensée devant l'esprit de la personne. Quand nous lisons l'Ancien Testament, le sacrificateur Élie, le roi David aussi, sont tous les deux critiqués par le Seigneur pour le fait qu'ils n'ont jamais réprimandé leurs enfants. Par contre, on a un sacrificateur et on a un roi. Ils n'ont pas fait ça avec leurs enfants. Et nous voyons, si vous voulez bien trouver, en Proverbes chapitre 4, le rôle prééminent de cette instruction. Proverbes, dans l'Ancien Testament, au début du chapitre 4, il y a un père qui parle et dit « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. » Vous voyez ce qui se passe chez eux ?« Soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons quoi ?» Conseil, ne rejetez pas mon enseignement. Puis j'étais fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Alors, pouvons-nous dire cela de nos conseils que nous donnons? Pensons simplement à deux amis qui se voient autour d'un café. Pouvez-vous dire à votre ami, après lui avoir donné du conseil, « Suis mon conseil et tu vivras. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Bon, ça semblerait peut-être un peu égoïste, mais on devrait pouvoir le dire. Parce que, suis mon conseil, et peut-être tu mourras, c'est pas très bien non plus, hein. Il faut que nos conseils soient selon la Bible. Un père, une mère, doit pouvoir dire à ses enfants, en tant qu'ils grandissent, tu connais mes conseils. Tu connais la sagesse que je t'ai donnée. Je sais que si tu suis cette voie, tu vivras. Alors, quel est le conseil que nous donnant. Quand devons-nous le donner? Eh bien, on ne va pas lire, mais en Deutéronome 6, il dit, on le donne tout le temps, hein. Quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te laveras. Voilà, c'est dans toutes les occasions. On n'a pas besoin d'une classe formelle à la maison. On assoit l'enfant, et voilà, maintenant, je deviens ton professeur. Non, non. L'enseignement se fait qu'on le veuille ou non. Donc, vaut mieux être conscient de ce fait. Mais vous savez que nous pouvons avoir des enfants en Christ. Et là, je vais vous lire, peut-être vous pouvez le trouver avec moi aussi, 1 Corinthiens chapitre 4. Et à partir du verset 14, et là, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas d'enfants ce matin. Il dit, 1 Corinthiens 4, 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes quoi ?»« Mes enfants bien-aimés. » »« Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Vous voyez, mêlant ces images d'engendrer, d'avoir un enfant dans cette relation spirituelle qu'il a. Et il dit au verset 16, « Je vous en conjure donc. » Et maintenant, dans son rôle de père spirituel, quelle est la consigne qu'il donne à ses enfants spirituels? Qu'est-ce qu'il dit? Soyez mes imitateurs. Vous voyez, cette relation de père-enfant doit toujours exister, où l'enfant peut être imitateur du père. Et donc il dit pour cela, verset 17, « Je vous ai envoyé Timothée qui est, notez encore le langage ici, il est quoi? Il est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Nous voyons que les mêmes phénomènes dans les relations spirituelles existent que dans les relations physiques. Les enfants imitent les parents. Les parents doivent donner l'exemple aux enfants. Ne cherchez pas, mais en 1 Timothée 1, Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, à Timothée, il dit, mon enfant, Oui, le mot qui vient juste après, l'adjectif, un enfant légitime dans la foi. Vous pouvez être célibataire sans enfant physiquement et avoir des enfants légitimes. C'est en la foi, mais c'est quand même un enfant légitime. Il dit dans sa deuxième lettre à Timothée, mon enfant bien-aimé, en Philémon, verset 10, il dit, je prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Galates 4, verset 19, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement. Donc, Paul est célibataire, il a des enfants légitimes, il a des enfants dans la foi, mais c'est un enfant légitime. Si vous êtes célibataire, vous pouvez demander à Dieu, donne-moi des enfants légitimes dans la foi. Et je vais vous lire 2 Timothée 3, 10, il parle à son enfant, il dit, pour toi, ah, ça nous devons le regarder, c'est le dernier passage, mais 2 Timothée 3, et plusieurs versets dans ce chapitre. 2 Timothée 3, d'abord verset 10. Donc c'est le père qui parle à son enfant et il dit, pour toi, tu as suivi de près, quoi? Mon enseignement. Alors, il y a un contraste qu'il fait ici. Parce que quand il dit, pour toi, dans d'autres traductions, nous lisons de ton côté, ou mais toi. Donc il y a un contraste. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement. Donc, le contraste, c'est avec quoi? Eh bien, Timothée est le fils spirituel, il suit Paul. Mais il y a d'autres qui ne le suivent pas. Et c'est là, nous voyons donc, en quatrième lieu, les menaces, en fait, à cette formation. Regardez plutôt dans le passage. Regardez au verset 1, donc 2 Timothée 3, verset 1. « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » Et gardez dans l'esprit que l'enseignement de Paul va à l'encontre de tout cela. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloignez-vous de ces hommes-là. On dirait le 21e siècle. Hein? Le cours naturel de la vie mène naturellement dans cette direction. Mais l'enseignement de Paul a conduit son fils Timothée dans toute une autre direction. Alors prenons quelques exemples. Regardez le verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Mais il dit, toi Timothée, tu as suivi mon enseignement. Alors, en tant que parent, quel est notre enseignement? L'enseignement de la plupart des parents conduit leurs enfants à être égoïstes. Êtes-vous d'accord avec ça? Que pour la plupart des parents, la façon qu'ils vont éduquer leurs enfants, que le monde est centré autour d'eux, etc., etc., vont en fait conduire leurs enfants à être égoïstes. Mais Paul dit, non, toi tu as suivi mon enseignement qui n'est pas ça. Vous regardez encore le verset 2. Amis de l'argent. La majorité de parents enseignent à leurs enfants, par leur propre exemple, à être amis de l'argent. Alors, il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Est-ce que nous les enseignons? Est-ce que nous formons de cette façon qu'ils grandissent et ils sont amis de l'argent? Regardez le verset 4. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, question. Pourquoi est-ce que la plupart des enfants aiment le plaisir plus que Dieu? Je crois que la réponse, c'est que leurs parents leur enseignent à aimer le plaisir plus que Dieu. Là, ça frappe au cœur, hein. Il faut se poser la question. Est-ce qu'en tant que père, je peux enseigner mes enfants comment aimer la télévision plus que Dieu? Ou la Bible? J'enseigne à mes enfants comment aimer l'euro plus que l'église. Comment aimer la coupe du monde plus que la croix de Christ, etc., etc. De beaux habits plus qu'un cœur pieux. Hein? Le fait de s'amuser plus que le fait de pratiquer la piété. Il faut se poser la question, qu'on soit parent ou non, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aux autres par ma vie? Est-ce qu'on peut dire, et mettez encore vos yeux sur le verset 10, à nos enfants ou aux autres que nous enseignons, suis de près mon enseignement. Suis de près ma conduite. Et mes enfants, suis de près mes projets. Suis de près ma foi. Suivez de près ma douceur. Et les enfants, suivez de près mon amour. Suivez de près ma constance. Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce qu'on peut dire à notre enfant, et toi, hein, suis ma douceur. Observe-moi avec ma femme et suis mon amour. Regarde-moi pendant comment je vis tout au long de la semaine et suis ma constance. Paul pouvait le dire à son enfant légitime dans la foi. Pouvons-nous le dire? Et ce n'est pas que Paul qui a eu ce rôle dans la vie de Timothée. Regardez le verset qui suit. Regardez le verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Et Paul pense à qui? Il le dit ailleurs, pas ici. Mais ce n'était pas son père physique, c'était sa mère et sa grand-mère. Et donc il dit, verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui pouvaient te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà les parents, l'enseignement qu'il faut donner à nos enfants, soit physique ou spirituel, la connaissance des saintes écritures. Ça, c'est le rôle des parents. Il a dit, toi, tu avais une mère, tu avais une grand-mère qui faisait ça et tu les connaissais dès ton enfance. Et pourquoi les Écritures? Ben, il le dit, regardez plus loin, verset 16. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner l'enfant, pour convaincre l'enfant, pour corriger l'enfant, pour instruire l'enfant dans la justice, afin que l'enfant devenu homme ou âme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si vous désirez ce résultat, et ben, il faut utiliser la parole de Dieu. Est-ce que vos enfants vont pouvoir dire, quand ils quittent la maison, mes parents m'ont fait connaître les saintes lettres. Mes parents m'ont enseigné la Bible. En tant que parents, nous voulons une bonne école pour nos enfants, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on veut une bonne école pour nos enfants? Eh bien, nous voulons les préparer à la vie, à cette vie. Mais ça, c'est ce qu'il faut réaliser. Nous sommes l'école qui les prépare pour la vie éternelle. Qu'on le veuille ou non, nous sommes l'école. La famille est l'école. Ce n'est pas seulement l'école qui sont l'école, c'est toutes les familles ici qui sont l'école pour leurs enfants. Donc, sommes-nous, parents, de bons maîtres et de bonnes maîtresses? Parce qu'un enfant qui grandit dans une famille qui n'est pas une bonne école du christianisme n'a pas beaucoup d'espoir pour devenir un bon chrétien. Hein, si on voit un enfant avec une maîtresse qui fait n'importe quoi, il ne va pas apprendre grand-chose. Vous êtes, comme dit Mono, les premiers pasteurs de vos enfants. Vous avez charge de leurs âmes. Vous en rendez compte. Alors, qui est le parent qui ne doit pas confesser ses péchés et plaider le pardon et la grâce de Dieu? Mes amis, là où le péché a abondé, la grâce peut surabonder. N'importe l'âge de nos enfants, n'importe les faiblesses et les lacunes du passé. Voici l'attitude à avoir. Frère, Philippiens 3:13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voilà, j'avance. J'avance. Et nous avons un Sauveur qui veut nous sauver. Et qui veut nous changer. Il a changé Judas, un terrible père, un terrible beau-père. Et il peut nous changer aussi. Prions au Seigneur. Seigneur, nous te louons pour ta bonté, pour ta grâce dans nos vies et nous prions pour nos familles. Que tu nous donnes la grâce d'être des écoles de la sainteté et de l'amour pour Dieu, pour bien former les disciples de la génération suivante. Et que tu donnes aussi à nos célibataires la joie d'enfanter spirituellement des enfants en Christ et de se lancer aussi dans cette même activité de former des disciples pour Jésus-Christ. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre attention. Je vous demande de vous lever et chantant cette prière, cette bénédiction, les uns envers les autres. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Chantons.
Amen.